vers toi. Et nous nous tournons vers toi, Seigneur, le cœur rempli de joie, la joie de savoir que tu es présent au milieu de tes enfants. Seigneur, nous ne nous assemblons pas les uns autour des autres, ou autour d'un humain, ou autour d'une personne intéressante, nous nous assemblons autour de toi. Et nous savons que chaque fois que nous sommes autour de toi, ton Esprit Saint, ton Esprit de lumière, ton Esprit de vie est présent. Seigneur, il est écrit que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir fait ce pourquoi tu l'as envoyé. Alors Seigneur, que ce matin, ta parole vienne jusqu'à nous, jusqu'à chacun d'entre nous, et qu'elle fasse ce pourquoi tu l'envoies. Nous nous mettons à ta disposition, nous voulons t'ouvrir nos cœurs, nous voulons t'ouvrir nos oreilles. Parle-nous, nous sommes tes enfants. Dans le nom de Jésus, ton Fils unique. Amen. Comment allez-vous? Bien? Ne mentez pas parce que je le vois de toute façon. Aujourd'hui, vous allez bien, ça se voit. Vous avez les visages rayonnants, malgré cette chaleur insupportable qui va me rendre fou à ces quatre matins. Mais malgré tout, nous allons bien par la grâce de Dieu. Ce matin, nous allons exceptionnellement lire cinq textes, mais cinq courts textes, très courts. Deux dans le Pentateuque, deux dans les prophètes et un dans le Nouveau Testament. Premièrement, Deutéronome, là nous allons lire deux versets, Deutéronome chapitre 10. Et là le verset 16, Deutéronome chapitre 10, et là le verset 16. Et nous nous excusons déjà auprès de ceux qui nous visitent pour la première fois ou qui n'ont pas l'habitude, parce que c'est un vocabulaire un peu compliqué, mais avec un peu d'attention, tout s'éclaire. Deutéronome 10, verset 16, il est écrit « Circoncisez donc vos cœurs et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. Circoncisez donc vos cœurs et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. » Nous restons dans le même livre et nous lisons dans Deutéronome chapitre 30, le verset 6. Il est écrit « L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur, de tout votre être et qu'ainsi vous viviez. » Amen. Ensuite, deux textes dans les prophètes. Le premier dans Jérémie, le livre du prophète Jérémie, chapitre 31. Jérémie 31, les versets 31 à 33. Jérémie 31, 31 à 33. Il est écrit... Mais voici, des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël, après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur, moi je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Amen. Un autre texte dans les prophètes, dans Ézéchiel chapitre 36, c'est le livre qui suit Jérémie. Ézéchiel 36. Et là, nous allons lire les versets 25 à 26. Donc, les versets 25 et 26. Non, jusque 27 plutôt. Ézéchiel 36, 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous mettrai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. le dernier texte dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 2, épître de Saint Paul aux Romains chapitre 2, et là les versets 28 et 29, Romains 2, 28 et 29, voici ce qui est écrit. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur, et la vraie circoncision est celle que l'esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Amen. Ce matin, nous allons écouter la parole autour du thème « Les caractéristiques d'un cœur circoncis ». Un cœur circoncis. Alors évidemment, c'est une expression qui est un petit peu obscure, on ne voit pas trop ce qu'on veut dire par là, c'est pas très clair, et en tout cas, ce n'est pas un vocabulaire qu'on utilise tous les jours dans la rue, et on ne dit pas à son collègue « ton cœur est-il circoncis ?» ou à son voisin, effectivement, c'est un vocabulaire qui n'est pas le nôtre. Mais c'est un vocabulaire qui pourtant est utile pour nous éclairer sur la volonté de Dieu, la circoncision. Comme vous le savez, il y a tout un ensemble de peuples sur cette terre qui circoncis les enfants. Alors, la circoncision, vous savez tous ce que c'est, je ne vais pas l'expliquer. Je ne vais pas non plus mettre le projecteur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Tout le monde sait c'est quoi la circoncision. Et en particulier, le peuple d'Israël est un peuple qui pratique la circoncision. Pas pour une raison hygiénique, certains peuples le font pour une raison hygiénique, pas pour une raison culturelle, mais pour une raison biblique, religieuse, c'est que Dieu a ordonné à son peuple, a ordonné à Abraham de circoncire chacun de ses descendants comme signe de l'alliance qu'il a faite avec ce peuple-là. La circoncision pour les Juifs, c'est le signe de la relation qu'ils ont avec Dieu, des promesses que Dieu leur a données, de la relation particulière que Dieu a avec eux. Et dans la Bible, chaque fois que Dieu conclut une alliance avec un peuple, il donne un signe. Par exemple, l'alliance avec Noé, il y a l'arc-en-ciel qui vient comme signe de l'alliance. Et dans la vie de tous les jours, quand un homme et une femme se marient, ils vont se donner une alliance comme un signe des engagements qu'ils ont pris les uns envers l'autre. Et donc, c'est un signe très fort, la circoncision pour le juif, c'est le signe de son appartenance à Dieu. C'est le signe de sa relation avec Dieu. C'est le signe de sa relation avec la loi de Dieu, avec la parole de Dieu. Et dans la Bible, l'incirconcision, donc le fait de ne pas être circoncis, c'est une marque d'impureté, de paganisme. Un incirconcis dans la Bible, lorsqu'on parle d'un incirconcis, c'est quelqu'un qui est hors du peuple de Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas sa loi. Et très vite dans la Bible, on commence à trouver des expressions qui ne sont plus liées à la circoncision telle qu'on la connaît, mais on commence, comme nous l'avons lu dans les textes, à parler d'un cœur circoncis. Voilà que Dieu se met à parler à son peuple d'avoir un cœur circoncis. Et aussi, dans certains textes, on parle du fait, justement, le contraire, d'avoir un cœur incirconcis. Avoir un cœur incirconcis, dans la Bible, c'est avoir un cœur qui a besoin d'être purifié. Avoir besoin d'une purification intérieure. Avoir un cœur incirconcis dans la Bible, c'est avoir besoin d'un changement radical. Vous avez lu dans le verset qu'on a lu, Dieu dit à son peuple, circoncisez vos cœurs. C'est un ordre qu'il leur donne. Vous devez circoncire vos cœurs. Vous avez besoin d'être purifié. Vous avez besoin d'être changé radicalement. Vous avez besoin de changer votre manière de vivre. Le signe d'un peuple qui est appelé à changer sa manière de faire. On parle d'un cœur incirconcis comme signe besoin d'être purifié, du besoin d'être lavé, du besoin d'être changé. Mais on parle aussi dans la Bible, par exemple, d'avoir une oreille incirconcise. Dans Jérémie 6, verset 10, il est écrit « Voici, leur oreille est incirconcise ». Et dans le contexte, ça signifie avoir une oreille incirconcise, c'est avoir une oreille incapable d'entendre la parole de Dieu, ou en tout cas, avoir une oreille qui refuse d'écouter, de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Alors on va dire, bah oui, mais ça c'était dans l'Ancien Testament qu'on utilisait cette image-là, maintenant ça n'existe plus, alors que ce n'est pas vrai, parce que dans Actes 7, verset 51, il est écrit « Homme aux coups raides, incirconcis de cœur et d'oreilles ». Donc cette image-là continue jusqu'au Nouveau Testament. Avoir un cœur incirconcis, avoir une oreille incirconcise, c'est se montrer incapable d'entendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Avoir un cœur incirconcis, c'est avoir un cœur obstiné. Obstiné, qui refuse d'écouter les paroles de Dieu. Avoir un cœur incirconcis, c'est avoir un être fermé. Être fermé à la volonté de Dieu, être fermé à son plan, être fermé à son amour, être fermé à sa grâce, être fermé à sa bonté. Avoir un cœur incirconcis, c'est avoir un cœur qui résiste au Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient toquer à la porte de nos cœurs pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous conduire, avoir un cœur fermé. Au contraire, dans la Bible, avoir un cœur circoncis, ça signifie quoi ? Avoir un cœur circoncis, c'est avoir un cœur qui est fidèle à l'Éternel. Un cœur fidèle à Dieu. Du plus profond de notre cœur, être fidèle à Dieu. Avoir un cœur circoncis, c'est avoir un cœur purifié. Purifié des saletés, des souillures, des mauvaises pensées, des mauvaises intentions. Avoir un cœur purifié. Avoir un cœur circoncis, c'est avoir un cœur disposé à écouter la parole de Dieu. Un cœur disposé à écouter ce que Dieu dit, à écouter la volonté de Dieu. Avoir un cœur circoncis, c'est avoir un cœur qui a intériorisé la loi de Dieu, c'est-à-dire avoir la loi de Dieu gravée à l'intérieur de soi. Comme il est écrit, que ses commandements soient dans ton cœur. Avoir un cœur circoncis, c'est avoir un cœur dans lequel la parole de Dieu, la volonté de Dieu est inscrite. Avoir un cœur circoncis, c'est avoir un cœur qui s'engage à aimer Dieu, à lui donner, à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est une autre expression pour parler d'un cœur circoncis. Alors dans Deutéronome, vous avez vu, si vous avez été attentif, vous avez été attentif. Ouais. Bon, vous avez vu que dans le premier verset qu'on a lu, Dieu dit « circoncisez vos cœurs ». Il leur donne cet ordre-là, « circoncisez vos cœurs ». Et dans le deuxième texte, il leur dit « je circoncirai vos cœurs ». Je circoncirai vos cœurs. On a donc des passages où Dieu nous demande de circoncire notre cœur, et puis il y a des autres passages où Dieu nous dit qu'il va circoncire notre cœur. Et bien plus, lorsque vous lisez Jérémie 31, verset 33, la promesse de Dieu pour la nouvelle alliance, la promesse de Dieu pour ceux qui rencontreront Jésus, elle est laquelle ? C'est de dire « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et j'écrirai ma loi dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc nous ne sommes plus dans la nouvelle alliance dans la pensée de dire « Je dois circoncire mon cœur. » Nous sommes dans la pensée de dire « Dieu nous donne, Dieu circoncise notre cœur. » Dieu nous donne un cœur dans lequel la parole de Dieu soit inscrite. Un cœur dans lequel la volonté de Dieu soit écrite. Et encore une autre promesse de la Nouvelle Alliance, dans Ézéchiel 36 que nous avons lu, il dit, c'est ça la promesse pour chacun d'entre nous, pour nous enfants de Dieu, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu promet à chacun de ses enfants, à chaque personne qui rencontre Jésus, un cœur nouveau. Celui qui vient à Jésus et qui donne son cœur à Jésus, en réalité, il en reçoit un autre, un nouveau cœur. Un cœur capable d'entendre la parole de Dieu. Un cœur capable d'obéir à la parole de Dieu. Un cœur capable d'entendre ce que Dieu dit. Un cœur capable d'aimer Dieu, un cœur capable d'aimer son prochain, un cœur capable de pardonner, un cœur capable de supporter. La grâce qu'il y a en nous, pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui avons rencontré Jésus, ce n'est pas seulement le fait d'être sauvés. Alors oui, nous sommes pardonnés, oui, nous sommes justifiés, oui, nous sommes lavés, oui, nous sommes héritiers avec Dieu, oui, nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais par-dessus tout, nous recevons un cœur nouveau. C'est ça la promesse de Dieu pour celui qui s'approche de Jésus, c'est de dire « Je vais prendre ton cœur, ton sale cœur, à toi. Damien et son sale cœur. » La promesse de Dieu, c'est « Je vais prendre ton cœur, Damien, et je vais t'en donner un nouveau. Un cœur qui lui plaise. La promesse de Dieu pour ses enfants, c'est le don d'un cœur nouveau. Il nous promet que l'Esprit de Dieu va venir habiter en nous, l'habitation de l'Esprit. Et il nous promet par-dessus tout que sa loi sera inscrite dans nos cœurs. Et cette œuvre, ce n'est pas une œuvre de réflexion, de travail, de mérite. C'est une œuvre que l'Esprit fait en nous. L'Esprit vient habiter en nous. L'Esprit nous donne un nouveau cœur, des nouvelles dispositions. C'est ça, avoir des nouvelles dispositions. Avoir un cœur disposé à écouter Dieu, un cœur disposé à faire sa volonté, un cœur disposé à aimer les autres, un cœur disposé à faire ce que Dieu nous dit dans sa parole. Dans la Bible, notamment dans le livre des Galates et dans d'autres livres, Dieu, ou plutôt les apôtres, nous expliquent un petit peu comment est-ce que Dieu a réfléchi. C'est que dans l'ancienne alliance, la loi était inscrite sur des tables. Sur les tables de la loi. Et le problème, c'était que la loi était inscrite sur les tables, mais les hommes, dans leur cœur, refusaient d'obéir à cette parole-là. Ils refusaient d'y adhérer, d'être d'accord. Et donc, quelque part, aussi excellente que puisse être cette loi, elle demeurait inefficace, parce que les hommes ne la mettaient pas en pratique. Et la solution que Dieu a trouvée, c'est de dire, plutôt que de rajouter des nouvelles lois, ou d'en inventer des nouvelles, ou d'en faire des plus grandes, des plus longues, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt changer le cœur de l'homme pour que le cœur de l'homme soit capable de faire la volonté de Dieu. C'est un petit peu comme si on disait qu'aujourd'hui, ben voilà, la limitation de vitesse à 120, c'est super. C'est vraiment super, en tout cas, merci Seigneur, c'est limité à 120. Mais si jamais les gens ne respectent pas la limitation de vitesse, ça ne sert pas à grand-chose. Alors c'est comme si Dieu disait, je vais changer le cœur des automobilistes belges, je vais leur donner un nouveau cœur, un cœur qui ait envie de respecter la limitation de vitesse. Dieu, plutôt que de nous accabler de nouvelles lois, décide plutôt de nous donner un nouveau cœur pour que nous puissions appliquer et mettre en pratique sa volonté. Venir à Jésus, c'est recevoir un cœur nouveau. Venir à Jésus, c'est recevoir une intelligence éclairée. Une intelligence éclairée. Venir à Jésus, c'est vivre un renouvellement de l'être intérieur. Nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, mais par-dessus tout, nous sommes régénérés. Nous devenons des personnes nouvelles, des personnes disposées, des personnes prêtes à faire ce que Dieu dit. Et dans Romains chapitre 2, il nous est parlé de ce qui a le plus de valeur. Ce n'est pas ce qui est extérieur, ce n'est pas la circoncision du corps, ce n'est pas la circoncision d'un organe ou d'un autre, mais l'apôtre nous dit que ce qui est important, c'est la circoncision du cœur. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas notre tenue vestimentaire, ce n'est pas notre maison, notre voiture, ce qui est important pour Dieu, c'est notre cœur qui se met d'accord de le suivre, de l'écouter, de recevoir sa volonté. La vraie circoncision, c'est la circoncision que Dieu opère par son esprit dans chacun de nos cœurs. Il nous donne un cœur nouveau. Quelle grâce! Quelle grâce! Mais à côté de ça, plus d'excuses. Je ne peux pas dire, Seigneur, désolé, mais c'est mon cœur qui ne veut pas. Il va dire, ben non, j'ai donné un cœur nouveau. J'ai même inscrit ma loi dans ton cœur. C'est ça la grâce de Dieu. Un merveilleux salut dont nous sommes les bénéficiaires. Alors, comment reconnaître un cœur circoncis? Quelles sont les caractéristiques d'un cœur circoncis? J'en ai 15, mais on ne les verra pas toutes aujourd'hui. Bon. Sauf si vous voulez, hein. Oui, Marc est d'accord. Premièrement, un cœur circoncis, c'est un cœur qui prend conscience de la gravité, de l'énormité, de la saleté, du caractère dégoûtant, repoussant, infect du péché. Lorsque nous recevons un nouveau cœur, nous prenons conscience à quel point chacun d'entre nous, qui que nous soyons, quoi que nous soyons, sans Jésus, nous n'avons aucune valeur devant Dieu. Chacun d'entre nous, sans Jésus, nous sommes pourris, à mettre à la poubelle, à jeter au feu,
à jeter dans l'OSC, à tirer la chasse. Aucune valeur. Parce que le péché dégoûte Dieu. Dieu ne peut pas supporter le péché. Dieu ne peut pas accepter le péché. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Chacun d'entre nous, sans Jésus, nous n'avons même pas le droit de regarder à Dieu. Nous n'avons même pas le droit de cohabiter dans le même endroit que lui parce que nous ne sommes que des déchets à ses yeux. Sans Jésus, nous sommes des déchets. Sans Jésus, nous ne méritons que la colère de Dieu, que son courroux, que son feu, rien que ça. Sans Jésus, nous sommes simplement dignes à être mis loin de Dieu, au plus loin, parce que le péché est horrible aux yeux de Dieu. Un cœur circoncis, c'est un cœur qui prend conscience à quel point. Parfois, on parle du péché, mais on ne se rend pas compte. Quand on dit que Dieu est saint, trois fois saint, je vous avais raconté le prof de théologie qui disait, mais non, dans les églises, on ment. On vous ment parce qu'on vous dit que Dieu est trois fois saint. Et c'est faux. Parce que la Bible dit que Dieu est saint, saint, saint. Bon, voilà. Ça, c'est les blagues au cours de théologie. Mais oui, saint, 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 trois fois, ça fait trois fois saint. Dieu nous donne un cœur qui prenne conscience de notre misère, c'est ça. Le cœur circoncis, c'est un cœur qui prend conscience de sa misère. Nous sommes misérables sans Jésus. Nous sommes misérables devant Dieu sans Jésus. Sans Jésus, la confusion, l'ignorance et l'erreur dominent notre intelligence. Nous sommes confus, nous n'avons pas la lumière pour regarder à Dieu. Pour connaître sa volonté, nous ne connaissons pas notre droite de notre gauche. Sans Jésus, nos passions, nos désirs sont insensés, sont désordonnés et ils usurpent le gouvernement de notre volonté, nos désirs, nos volontés, nos rancunes, tout ça se déchaîne en nous. Un cœur circoncis, c'est un cœur qui prend conscience que devant Dieu, nous sommes tous pauvres, misérables, aveugles et nus. Pauvres, misérables, t'as pas de valeur. Tu vaux rien sans Jésus. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que celui qui est humain n'a pas de valeur. Mais qu'en ce qui concerne la vie éternelle, en ce qui concerne la vie éternelle, nous avons tous de la valeur dans notre travail, dans ce que nous faisons à la maison, dans notre famille. Chaque être humain a de la valeur. Mais en ce qui concerne la vie éternelle, le fait d'être sauvé, d'aller au paradis, d'aller auprès de Dieu, nous n'avons pas de valeur sans Jésus. Nous n'avons pas d'accès. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. De la valeur dans ta famille, de la valeur pour tes amis, de la valeur dans ton club de foot, de la valeur pour ton club de basket, de la valeur auprès de tes collègues. Et pour rentrer au ciel, pas de valeur sans Jésus. Pas de valeur sans Jésus. Et donc celui qui prend conscience de sa misère, sa réaction, ça va être de placer toute sa confiance en Jésus. Il ne va pas simplement dire, « Ouh là là, je suis pécheur, je suis loin de Dieu. » Son cœur va chercher à placer sa confiance en Jésus. Il prend conscience qu'il ne peut pas se sauver par lui-même. Il prend conscience que sans Jésus, il n'a pas de valeur devant Dieu. Alors il va confier sa vie dans le sacrifice de Jésus pour être pardonné, pour être sauvé. Je confie ma vie au sacrifice de Jésus. Je confie ma vie parce que je sais qu'il n'y a qu'en lui que je peux être pardonné, que je peux être sauvé. Je prends conscience que je n'ai pas d'autre espoir de salut qu'en dehors de Jésus. Et ça crée en nous un sentiment de louange, d'adoration, de célébration, parce que nous prenons en même temps conscience de notre misère, mais en même temps nous nous rendons compte à quel point nous avons cette grâce immense. On dirait simplement, en termes concrets ou en termes familiaux, on dirait quelle chance d'avoir Jésus par lequel nous pouvons atteindre le Père, par lequel nous sommes qualifiés. Jésus nous qualifie pour entrer au ciel. Et bien plus, Jésus nous qualifie pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Jésus nous qualifie pour être connu de Dieu. Jésus nous qualifie pour développer une relation avec lui. Nous découvrons la grâce de Dieu, nous découvrons le package de grâce, d'amour que Dieu nous donne en Jésus. Ce cœur circoncis, c'est un cœur tellement joyeux parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autre dignité en dehors de Jésus. Et on a plein de chants dans les recueils qui parlent de ça. Plein de chants. Si dans « À toi la gloire », nous avons plein de chants qui expriment ça. « Je n'ai pas d'autre espoir que dans ta croix, pas d'autre espoir que dans ton sang, pas d'autre espoir que dans ta vie que tu as livrée pour moi. » Nous rendons un culte à Dieu par l'Esprit. Nous ne mettons pas notre fierté dans ce que nous sommes, dans notre intelligence, dans nos diplômes, dans nos voitures, dans nos comptes en banque. Nous ne mettons pas notre confiance dans toutes ces choses-là. Nous mettons notre confiance dans le Fils de Dieu qui est mort pour nous. Et ça change toute une vie. Ça change toute une vie. Parce que l'on sait que notre seule valeur, nous ne pouvons la trouver que dans ce Fils de Dieu qui est mort pour nous. Et là, en mourant pour nous, il nous donne de la valeur. En laissant couler son sang pour chacun d'entre nous, il nous donne de la valeur. Nous avons le prix de sa vie. S'il y avait juste un seul d'entre nous qui était sur terre à l'époque où Jésus était là, il serait mort pour nous. Pour toi, tout seul. Pour toi tout seul, Jésus serait mort. Quelle grâce! Quelle grâce! Celui qui a un cœur circoncis, il se réjouit de la grâce qui est en Dieu. Il sait que son Rédempteur est vivant. Il sait qu'il a un avocat auprès du Père. Il sait que Jésus-Christ, le juste, est le pardon pour ses péchés. Il sait que Dieu l'aime. Il sait que Jésus s'est donné pour lui. On a chanté tout à l'heure, « Je sais que tu m'aimes ». C'est ça le cœur circoncis. « Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es mort pour moi. Je sais que tu me donnes de la valeur. Je sais que tu me qualifies pour la présence de Dieu. Je sais qu'en Jésus, je suis réconcilié avec Dieu. Je sais que par son sang, j'ai le pardon de mes péchés. » Troisièmement, le cœur circoncis, sa caractéristique, c'est un cœur qui recherche l'approbation de Dieu. Avoir un cœur circoncis, c'est avoir un cœur qui recherche à être approuvé par Dieu. Le cœur circoncis, ce n'est pas une personne qui cherche tout simplement à ce que les hommes l'acclament et disent « c'est très bien », comme les pharisiens. « Oh là là, tu fais des longues prières, oh là là, tu es là partout, oh là là, oh là ». Non! Le cœur circoncis, ce n'est pas un cœur qui cherche à plaire aux humains, qui ne cherche pas à se faire beau pour les autres. C'est un cœur qui cherche à plaire à Dieu. Chercher de tout notre cœur à plaire à Dieu. Dans notre vie, dans nos paroles, dans nos relations, dans nos décisions, dans nos projets. Chercher à plaire à Dieu. Chercher à lui être agréable. Chercher à plaire à Dieu. Nous cherchons non pas la louange des hommes, mais nous cherchons la louange de Dieu. Nous cherchons à être approuvés par Dieu. Quelle est la plus belle chose que nous puissions entendre à la fin de notre vie? Que cette parole que Jésus a pu entendre, « Celui-ci est mon Fils qui fait toute ma joie. » Oh ! Ça, c'est l'objectif de la vie du chrétien. Arriver devant Dieu que, simplement cette phrase, « Je ne veux pas que Dieu me dise, en tout cas, tu aurais gagné la Coupe du Monde, je ne veux pas que Dieu me dise que... » Ça, je m'en fiche. Je veux que Dieu me dise, « Celui-ci, c'est mon Fils qui fait toute ma joie. » Je veux que Dieu me dise, « Ta vie m'a plu. » Ça, c'est l'espoir du chrétien. Nous ne cherchons pas à être les plus beaux, les plus intelligents, c'est de l'orgueil. Nous cherchons à être approuvés par Dieu dans notre conduite, dans nos objectifs, dans notre vie, dans ce qui nous constitue. Est-ce que tu peux dire, en toute vérité, que malgré tes faiblesses, tes imperfections, le grand objet, le grand but, le grand objectif de ta vie, c'est de plaire à Dieu? Est-ce que tu peux dire ça? Oui, avec tes faiblesses, tes imperfections. Il y a des gens qui sont très imparfaits de ce côté-là de la salle, qui ont beaucoup d'imperfections. Ils sont beaucoup, je ne dis personne, Donc ça peut être devant. Il n'y a que Jean-Paul qui soit parfait. Bon, la tranquillité en personne, la force tranquille. Mais de ce côté-ci, il y a des gens. qui ont beaucoup d'imperfections. Mais est-ce que tu peux dire, dans toute ton existence, malgré tout ce que tu peux faire de mal, toutes tes chutes, toutes tes luttes, tous tes combats, est-ce que tu peux dire que l'objectif de ta vie, c'est de chercher à plaire à Dieu? Te lever le matin en disant, quelle est l'attitude aujourd'hui qui va plaire à Dieu? Quel est le programme? Quel est l'agenda? Quelles sont les paroles? Quelles sont les attitudes qui vont plaire à Dieu? Ça change une vie. Nous cherchons l'approbation de Dieu. Et quatrièmement, la caractéristique d'un cœur circoncis, c'est un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui veut l'aimer. Et il le dit, vous avez lu le texte dans Deutéronome qui dit « Je circoncirai vos cœurs afin que vous aimiez l'Éternel de tout votre cœur, de tout votre âme, de toute votre force. » Ce que Dieu fait, c'est qu'il nous donne un cœur nouveau afin que notre cœur soit un cœur capable d'aimer Dieu. Vous savez, aimer Dieu, c'est incapable pour l'homme naturel. Aimer Dieu, c'est quoi aimer Dieu? On ne le voit déjà pas, on ne sait pas où il est. Trois quarts du temps, il ne nous aide pas beaucoup. Il permet que les guerres continuent à être des guerres et il y a des catastrophes dans le monde et il ne fait rien. C'est l'œuvre de l'esprit en nous qui nous permet d'apprendre à aimer Dieu. Et pas aimer Dieu au rabais. Pas aimer Dieu quand on n'a plus rien à faire ou comme dernière activité. Mais aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Un cœur circoncis, c'est un cœur qui aime Dieu. C'est un cœur qui aime Dieu, un cœur qui veut le célébrer et le louer. Pour terminer, voici une citation de John Wesley, le père du méthodisme. Vous le connaissez, John Wesley?
Oui.
Vous l'avez déjà vu?
Non.
Celui qui aurait dit oui, ce serait fait un point. Parce qu'il est mort depuis longtemps, John Wesley, mais bon. Voici ce qu'il dit. Ne désirez de vivre que pour louer son nom. Que toutes vos pensées, vos paroles et vos actions tendent à sa gloire. Que votre âme soit remplie d'un amour si complet pour lui que vous n'aimiez rien qu'à cause de lui. Que l'intention de votre cœur soit pure, que toutes vos actions aient constamment sa gloire en vue. Car alors et seulement alors, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ seront aussi en nous, lorsque chaque battement de notre cœur, lorsque dans chaque parole de notre bouche, lorsque chaque œuvre de nos mains, nous ne chercherons rien qu'en vue de lui et sous son bon plaisir. Lorsque nous ne penserons plus, ne parlerons plus, n'agirons plus pour faire notre propre volonté, mais pour faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Lorsque, soit que nous mangerons ou boirons ou ferons quelque autre chose, nous ferons tout à la gloire de Dieu. Et il termine en disant, la somme de la loi parfaite, c'est la circoncision du cœur. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi. Et nous te bénissons parce qu'en tant qu'humain, tu nous as donné de la valeur, parce que nous sommes créés à ton image. Nous avons de la valeur pour ce monde, pour ce que nous faisons, pour les uns pour les autres. Et nous savons que devant toi, pour entrer dans ton ciel de gloire, nous n'avons de valeur qu'en Jésus, qu'à cause de lui. Nous voulons te bénir, Éternel, pour la grâce que tu nous as faite de nous sauver, de nous délivrer, de nous pardonner, de nous avoir valorisés, de nous avoir élevés au rang de fils de Dieu. Seigneur, nous voulons te prier ce matin parce que nous savons aussi que tu nous as donné un cœur nouveau en Jésus-Christ. Nous voulons te prier, Père, pour que tu gardes ce cœur en nous, que tu protèges ce cœur en nous, un cœur conscient de sa misère, mais en même temps un cœur qui place sa confiance en toi, un cœur qui cherche à te plaire, un cœur qui t'aime. Donne-nous ce cœur, garde ce cœur en nous, que ton esprit continue à nous garder ce cœur circoncis. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ceux qui d'entre nous aujourd'hui
ce matin se disent qu'ils ont besoin de ce cœur, qu'ils ont besoin de te rencontrer, qu'ils te rencontrent. Voulons prier pour ceux qui te connaissent déjà, qui te servent déjà et qui se disent qu'ils ont besoin d'avoir un renouvellement de leur cœur. Ils ont besoin d'un renouvellement de leur cœur pour chercher à te plaire, chercher à t'aimer. Seigneur, que tu rencontres chacun, que tu continues à agir dans nos vies. Seigneur, nous voulons vraiment te louer, nous voulons te célébrer, nous voulons te demander que ta parole continue d'agir dans nos cœurs, que ton esprit continue à nous parler, que ton esprit continue à nous éclairer, chacun pour ce que nous sommes. Te bénissons pour tes grâces et pour ton amour. Amen.
Amen.